la grande édition avec Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, une ministre en Corse aujourd'hui, la ministre de la Santé en Corse du Sud, pour faire un point sur l'accueil des aînés. On voit cela dans un instant avec Marion Galland. À Ajaccio, un procès pour proxénétisme aggravé, un vaste réseau qui couvrait l'activité de prostituées à Porto Vecchio. Nous ferons le point avec Paul Ortoli. Nous verrons aussi le retour des volleyeurs du GFCA, battus sur le fil hier soir à Cannes. La proie était à portée des Ajacciens. Il sera aussi question du foncier économique dans le Grand Bastia et puis au Jomère qui accueillait ce matin Paul Kilikine, le maire de Sartène. La ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, était à Vico ce matin. Une visite pour inaugurer le tiers-lieu situé dans l'EHPAD du village. Ce tiers-lieu, c'est le seul de Corse et il permet de mener des activités dans l'établissement, de faire venir des gens de l'extérieur et de développer aussi les relations intergénérationnelles, Marion Galland.
Oui Didier, et ce tiers-lieu a pu voir le jour grâce à un appel à projet remporté par l'EHPAD de Vico. Cet appel à projet national devait récompenser un établissement par région et il a permis à Vico de bénéficier d'une enveloppe de 150 000 euros pour effectuer des aménagements. Avec l'aide supplémentaire de l'ARS ou de la communauté de communes, ce sont en tout 350 000 euros qui ont été investis. Alors un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien Didier, c'est un lieu d'accueil au sein même de l'EHPAD. Souvent très âgés et parfois difficilement mobiles, les pensionnaires ne peuvent plus se rendre dans le village. C'est donc le village qui peut désormais venir à eux. Des partenariats ont été passés avec le collège, l'école ou le centre aéré. Les enfants et adolescents viennent donc sur place au contact des personnes âgées et partagent leurs activités avec elles. C'est par exemple le cas de l'école de chant qui vient faire cours une fois par semaine. Des résidences artistiques sont également prévues. Les 24 pensionnaires attendent désormais avec impatience les visites qui, selon les soignants, les font même rajeunir. L'EHPAD de Vico qui va également s'agrandir avec l'arrivée d'ici 2028 du foyer rural médicalisé de Guagno ainsi que d'un accueil de personnes atteintes d'Alzheimer. La ministre a visité l'établissement durant un peu plus d'une heure. Il faut dire que Catherine Vautrin était ici presque en voisine puisque son mari est originaire de Casalione. Elle a par ailleurs annoncé que des discussions sont toujours en cours au sujet de l'hôpital de Bastia et que des réunions devraient se tenir prochainement à ce sujet. Elle a également confirmé que dès 2025, les étudiants en médecine pourront faire leurs trois premières années à l'université de Corte.
Enfin, merci Marion, et on en parlera dans une prochaine édition. Une quarantaine d'agents EDF STC mobilisés ce matin devant la centrale de Luciane. Ils dénoncent une dégradation importante du dialogue social avec la nouvelle direction et un deux poids deux mesures par rapport aux autres syndicats. Le STC déplore notamment de ne pas avoir été convié à Paris lors de la rédaction du projet stratégique EDF-PEI 2030 au prétexte de ne pas avoir de représentativité nationale française. STC qui rappelle être au passage le premier syndicat de Corse. Cinq personnes, quatre hommes et une femme, jugés depuis ce matin à Ajaccio pour un réseau de proxénétisme aggravé à Porto Vecchio. Des appartements étaient mis à disposition de prostituées venant du continent et proposant leurs services sur des plateformes de sites d'annonces. À la barre, Nicolas Vabre, 52 ans, qui se présente comme un agent immobilier, pas un proxénète, il est au centre du dossier. Sont jugés également d'autres loueurs qui mettaient à disposition leurs biens immobiliers, qui plaident l'ignorance ou que tout ceci était parfaitement légal. Sur place, au tribunal judiciaire d'Ajaccio, on retrouve en direct Paul Ortoli. Paul, on en sait un peu plus sur l'ampleur de ce réseau?
380 femmes de toutes nationalités vendant leur corps chaque semaine dans toute la France et atterrissant à Porto Vecchio, le cerveau de ce réseau local de prostitution itinérante. C'est selon l'accusation Nicolas Vabre, 52 ans. L'affaire éclate en 2018 avec une écoute téléphonique dans une enquête de trafic de drogue. La police braque rapidement les projecteurs sur cet homme déjà condamné pour extorsion et l'arrête en 2019. Nicolas Vabre va chercher les femmes à l'aéroport de Figari, les loge dans ses appartements, les protège. Puis, il ramasse les compteurs avec une commission de 20% au passage et il note le tout dans un registre saisi par la police. J'étais leur bailleur, je passais du temps avec elles, je les amenais à la plage, se défend Nicolas Vabre. Crâne rasé, physique trapu et lunettes fines, ils refusent d'endosser le costume du maquereau. Je ne suis pas proxénète, je suis agent immobilier, explique-t-il au tribunal. Ce proxénétisme hôtelier lui a rapporté 125 000 euros par an. Comparaissent avec lui Harold Duminil, présenté comme son associé, et trois colloueurs, dont sa sœur Delphine Vabre, Jean-Yves Castelli et Jean-François Terrazzoni, dont l'appartement a été saisi. La peine maximale encourue pour proxénétisme est de 10 ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende.
Merci Paul. Il s'en est fallu de peu, de très très peu, et ça fait rager, pour que le GFCA Volley accède à la Pro A hier soir à Cannes. Alors qu'il s'était incliné 3-7-1 au Palatine au long du match aller en finale, le GFCA a brillamment remporté la seconde manche au Palais des Victoires à Cannes. Même score 3-1, mais cette fois donc en faveur des gaziers. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pour rejoindre la Pro A, il fallait remporter le 7 en or. Et à la loterie, puisque c'est une loterie pratiquement, ce sont les Azuréens qui ont eu la main, 15-12. Résultat, une défaite qui fait mal. Ça s'est joué à rien pour que les Alexiens qui sont rentrés à la maison ce matin touchent le rêve. Mais avant cela, une dizaine de supporters les attendaient à l'aéroport, Léria Maria Mousso.
Oui, et parmi eux, Marielle, jeune infirmière qui était au rendez-vous après sa nuit de garde.
Ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. Le 7 en or, même si on a perdu le match, c'est un score qui était très serré et c'est ce qu'on attend en fait, cette adrénaline que nous donne cette équipe en fait, ce club, et on est vraiment une famille et on a retrouvé encore une fois ce sentiment-là pour cette finale.
Une famille réunie à l'arrivée des joueurs qui ont été acclamés à leur descente de l'avion et ont pris le temps de revenir sur ce match décisif avec leurs supporters. Florian Lacassie est réceptionneur attaquant.
On a fait 95% de ce qu'on était venu faire à Cannes. On a corrigé quelques petites choses qui s'étaient pas très très bien passées sur le match aller. Et on savait qu'en les agressant, chez eux, ils allaient avoir la pression du résultat et tout. Et que si on rentrait vite dans le match, en leur mettant une grosse pression, on savait qu'on pouvait faire de belles choses.
Et ils ont tenu jusqu'à ce 7 d'or qu'ils ont perdu 12 à 15, sans faillir pour autant, selon Louis Perlade, libéraux.
Je sais pas s'il nous a vraiment manqué quelque chose. Je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir les battre et pour justement atteindre le Golden 7. Et après, bon, ils ont aussi bien joué et su marquer quand il fallait marquer. Donc bravo à eux. Bonne saison qui se termine bien et il faudra qu'elle se termine mieux la saison prochaine, c'est tout.
Une saison prochaine qui débutera à l'automne après un repos bien mérité.
Paul Mouratchoul, le président depuis 2 ans du GFCA, était hier et ce matin un petit peu comme ses joueurs et son staff, c'est-à-dire partagé entre deux sentiments.
On est déçus et contents à la fois, quoi. On a manqué, je pense, uniquement un peu de force physique pour que les joueurs qui ont tout donné sur le match gagné 3-1, au tie-break, on a senti à la fin qu'il manquait un peu de fraîcheur. Ils ont beaucoup donné pour gagner le match de manière spectaculaire 3-1 contre Cannes. Et sur ce tie-break d'or, il fallait retrouver un peu de fraîcheur, c'est ce qui nous a manqué uniquement, et pas la qualité. Le groupe était vraiment de grosse qualité. Ils n'ont pas fait de complexe face à Cannes, ça s'est vu dès qu'ils ont pu jouer leur jeu. Il y avait une certaine c'était assez équitable au niveau du jeu.
Comment vous appréhendez la saison qui vient maintenant que celle-ci est terminée, qu'on est allé, on a frôlé la montée en Pro A?
Alors on a déjà bien sûr esquissé l'année prochaine et on essaie d'avoir un groupe qui soit aussi performant que cette année et on espère qu'on n'aura pas trop de gros budget face à nous.
Sujet signé, Léria Marie, Amon, Sobastia, Furiani, Ibigulia, Borgo, Luciane. Alors si politiquement les communautés d'agglomération de Bastia et de Maranagoul ne sont pas prêtes à fusionner, dans les faits, ce vaste territoire fait déjà l'objet d'une stratégie commune, notamment en matière de foncier économique. En effet, les zones d'Herbajoul, Tragonne, Valrose et Porrette concentrent le foncier dit économique du Grand Bastia et ont récemment fait l'objet d'une étude commune sur les gisements fonciers à vocation économique. Alors concrètement, Hélène Batigny, l'idée est de se projeter sur les 10 prochaines années.
Lors de l'élaboration de nos PLU et autres documents d'urbanisme, on en parle bien moins que des villas, immeubles et autres habitations, mais ces parcelles permettent aux entreprises de s'installer, se moderniser et se développer. Un besoin qui a été chiffré par un cabinet spécialisé pour permettre aux élus de se projeter. Conclusion, d'ici 10 ans, si aucune mesure de densification et d'optimisation du foncier n'est prise, près de 24 hectares viendront à manquer dans le Grand Bastia. Il s'agit principalement d'un besoin projeté en entrepôt, une vingtaine d'hectares nécessaires contre seulement la moitié en offre potentielle à ce jour, mais aussi en locaux artisanaux avec un besoin de plus de 13 hectares pour 10 fois moins sans action de la part des EPCI. Un problème de riches, diront certains, compte tenu du dynamisme économique du territoire que ces projections traduisent, mais un véritable défi d'optimisation du foncier pour les élus via les PLU, mais aussi des procédures réglementaires de bien 100 mètres, d'abandon manifeste ou encore de droit de préemption, ainsi que des outils fiscaux de taxation à mobiliser. Une vision harmonisée à moyen voire long terme, si ce n'est administrative, manifestement inévitable de fait.
Alors comment trouver cette vingtaine d'hectares de foncier économique ? Eh bien, il y a des leviers à actionner, explique Serge Dinal, vice-président de la CAB en charge du développement économique et numérique.
Le plus connu, c'est le PLU, sur lequel il faudra faire des réserves et tous les outils d'orientation, d'aménagement et de programmation. Et après, il faudra inciter évidemment les propriétaires à utiliser leur patrimoine foncier, à limiter la vacance. Et là, on souhaite utiliser des outils fiscaux en jouant sur les taxes sur les friches, en jouant sur la majoration de la taxe foncière pour les propriétés non bâties et constructibles, et toutes sortes d'outils qu'on pourra détailler, mais qui sont des leviers. Mais la première phase, aujourd'hui, c'est quand même l'état des lieux et une projection, encore une fois, basée sur non pas des fantasmes, mais vraiment l'évolution actuelle des entreprises.
Et en marge du foncier commercial à trouver, une question se pose déjà aujourd'hui. Comment gérer les déchets industriels ? Comment les garages, par exemple, ou les industriels se débarrassent de leur huile usagée ? Certainement pas comme ceux qui avaient déversé jeudi dernier 3000 litres d'huile de vidange dans les égouts de la zone industrielle de Tragonne et au sud de Bastia. Encore, c'est l'entreprise Chimirec Corsica qui se charge de collecter ces huiles. Ces camions-citernes se rendent dans les garages ou les entreprises pour les récupérer. En 2023, Chimirec a collecté entre 800 et 900 tonnes. Ses plus gros clients, les garages, le BTP pour l'entretien des engins, mais aussi EDF, un service qui, en plus, est totalement gratuit. C'est ce que précise Michel Koutcheraoui, le directeur adjoint de Chimirec Corsica.
C'est gratuit parce qu'en fait, on a des subventions. Déjà, on ne paye pas le transport Corse-Continent. Il y a des semis qui viennent ici collecter les huiles noires dans nos cuves de stockage sur notre centre de transit de Follelli. Donc le transport n'est pas à notre charge. Et ensuite, on a des subventions au mètre cube d'huile collectée. C'est ce qui nous permet de nous rémunérer, de rémunérer la collecte dans les garages.
Une fois que vous collectez ces huiles, qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Là, actuellement, il y a 100% qui sont régénérées, c'est-à-dire elles redeviennent des huiles qui repartent dans le circuit de vente des huiles moteurs ou des huiles de chaîne de tronçonneuse.
C'est vous qui les traitez ?
Ah non, c'est l'organisme qui retraite. C'est Cyclevia qui refabrique de l'huile avec des huiles de vidange.
Et précisons que Chimirec Corsica est une plateforme qui assure non seulement la collecte des huiles usagées, mais aussi la collecte des déchets dangereux et non dangereux, ainsi que le nettoyage industriel. La santé, on en parlait en début de journal avec Catherine Vautrin, la ministre qui est à Vico en ce moment. Santé publique France a publié les chiffres de la vaccination. Et la Corse est globalement à la traîne. Principal point noir, les vaccins contre la grippe, le Covid-19 ou le zona, idem pour les nourrissons, encore insuffisamment vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, Paul Ortoli.
Oui, c'est le fameux ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Ce vaccin est obligatoire depuis 2018, mais seuls 81% des nourrissons corses ont reçu leur seconde dose, selon Santé publique France. C'est 5 points de moins que la moyenne nationale, sachant que seule une couverture vaccinale à 95% permet d'interrompre la transmission de ce virus. Chez les adolescents, le vaccin contre le méningocoque C progresse de 6 points, mais est à la peine chez les jeunes de 15 à 19 ans, avec un taux de 34%. Deux points positifs dans cette avalanche de chiffres, 71% des nourrissons nés en 2023 ont reçu au moins une dose de vaccin contre le méningocoque B à 8 mois. C'est un gain de 23 points et 44% de ces mêmes chères têtes blondes ont une dose contre les rotavirus, ce qui fait de l'île une bonne élève en la matière. Cette même île est en queue de peloton pour les aînés, grippe, Covid-19, zona. Les vaccinations sont insuffisantes chez les personnes à risque, 14% chez les plus de 65 ans pour le Covid, 1% des 65-74 ans pour le zona. Bref, le bulletin vaccinal de Santé publique France dit « peut mieux faire ».
À Bastia, Pierre Savelli lance demain dans le quartier de Togg à la première édition des Spuntini Cittadini. C'est un nouveau format des rencontres citoyennes à Bastia. Il s'agit pour les habitants de rencontrer le maire, les adjoints, les services de la ville. Antoine Graziani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal, délégué à la démocratie participative. Concrètement, qu'a apporté la démocratie participative à la ville et à la vie des habitants ?
Alors, concrètement, c'est une volonté politique depuis 2014. L'objectif est de donner la parole aux Basquiais, de les rencontrer dans un climat de proximité, dans leur quartier, d'écouter leurs doléances, leurs remarques et leurs aspirations. Mais c'est également l'occasion, je dirais, de découvrir ce qui a été réalisé dans leur quartier, l'action au quotidien des services, mais également de les informer sur l'état d'avancement des projets structurants. Donc on peut dire qu'on travaille dans un esprit de proximité avec les Basquiais, et je pense que c'est ça le facteur marquant de la démocratie participative.
Et depuis 2014, quel bilan ? Ça fait 10 ans maintenant.
Ça fait 10 ans, nous travaillons sur plusieurs axes, donc les Spontini Cittadini qui débutent demain, le budget participatif qui fonctionne très bien avec plusieurs actions réalisées depuis maintenant 6 ans.
Lesquelles ?
Je vais vous parler de ce qui est réalisé actuellement, la plantation de 50 arbres dans le centre-ville, la collecte de mégots, la restauration de l'oratoire Saint-Roch, la réfection des carreaux de l'église Saint-Charles ou encore de l'horloge du Palais des Gouverneurs.
En fait, ça répond à des petits problèmes de la population, simplement.
Alors, il y a une volonté d'agir sur le quotidien, sur des signalements, et sur des remontées du terrain. Et effectivement, c'est toujours un travail en concertation avec les Basquiais. C'est ce qu'on appelle la participation citoyenne.
Inévitablement, on peut se poser la question de la récupération politique de la campagne pour la municipale 2026. Comment faire en sorte que ça ne soit pas politiquement récupéré ?
Alors, vous savez, en politique, 2 ans, c'est très court, mais pour les citoyens, dans leur quotidien, 2 ans, c'est très long. Et nous, on veut intervenir et agir sur leur quotidien. Les Basquiais nous ont placés aux responsabilités pour cela, et nous le faisons.
Merci Antoine Graziani, délégué à la démocratie participative à Bastia. Première édition, c'est demain dans le quartier de Togues. Elle est, selon Prosper Mérimée, la plus corse des villes corses. Sartène était à l'honneur ce matin sur RCFM. Paul Kilikini, le maire, était l'invité de notre émission au Jomère, invité de la rédaction à 7h45, puis du forum de 8h15 à 8h30. Sartène, présentation d'abord avec Patrick Vinciguer.
Sartène, sous-préfecture de Corse du Sud, est la plus vaste commune de l'île, un peu plus de 200 km², soit 10 fois la superficie de Bastia, pour une population de quelque 3500 habitants, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Elle possède une importante façade côtière, dont près de 4000 hectares de rocapine à Campomor Senetosa, qui appartiennent au conservatoire du littoral, une politique de protection encouragée en son temps par Dominique Bouquigny, maire communiste de Sartène de 1977 à 2001. Les partis aménagés sont rares. Il y a notamment le port de Tizzano. La commune dispose indéniablement d'atouts touristiques. Non seulement une remarquable ouverture sur la mer, donc le domaine de Mourtes, il se trouve sur son territoire, mais aussi une cité pittoresque, authentique, où est implanté le musée d'archéologie de la Corse. L'autre vocation de Sartène, c'est l'agriculture. Elle possède d'ailleurs un lycée agricole. Une agriculture qui se distingue entre autres par un domaine viticole renommé, l'AOC Sartène. Paul Kilikini, divers droite, est le maire de la ville depuis 2008.
Et avant de répondre aux questions des auditeurs, le maire, Paul Kilikini, était l'invité de Caroline Saglione.
Bonjour Paul Kilikini.
Bonjour.
Non au projet de piétonnisation du centre-ville de Sartène. Vos administrés ont voté contre à 68,5% hier lors de la consultation citoyenne à votre initiative. Alors il fallait répondre oui ou non. Allez-vous tenir compte de cet avis ?
Ben évidemment, sinon je n'aurais pas fait cette consultation, ça va de soi. Même si la participation est excessivement faible, on arrive à peu près à 33-34% de participation, ce qui veut dire que les 70% qui ne sont pas venus voter, ben voilà, tant pis pour eux, mais en même temps, ils font partie de la population de Sartenaise, et donc ils auront peut-être leur mot à dire à l'avenir.
Alors pourquoi cette piétonnisation vous tenait tant à cœur pour le développement économique du centre-ville ?
Alors, c'est simple. Nous avons, loupé le développement des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 2000 pour des raisons multiples et notamment pour des raisons politiques. C'est-à-dire que Sartène a mis en place dès 1980 un plan d'occupation des sols très restrictif qu'on peut comparer aujourd'hui un petit peu au Padduc, hein, c'est-à-dire c'est très difficile de construire, c'est très difficile de s'épanouir. J'en veux pour preuve simplement certaines avaient été la 3e ville de Corse dans les années 70 et aujourd'hui nous sommes la 23e ville de Corse, c'est-à-dire que la population a baissé, beaucoup de Sartenais sont partis vivre et gagner leur vie à l'extérieur, à Porto-Vec, à Ajaccio, à Bastia, où se sont carrément expatriés. Et j'en veux pour preuve là aussi, il y a une association des Sartenais à Ajaccio. Il y a 1400 adhérents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des gens de près de ma génération ou un peu plus jeunes. Ce qui veut dire que bon, certaines c'est vidé de sa substance humaine. Et après, il est très difficile de reprendre tout ça. D'autant plus que je dirais les règles de constructibilité, les règles environnementales ont changé. Alors il fallait redonner quelque chose de particulier à ce territoire qui est immense. Vous le savez, vous l'avez déjà dit, ou c'est Monsieur Vinchinguer qui l'a dit dans sa présentation. Pratiquement 22 000 hectares. 33 kilomètres de côte, le plus grand littoral de toutes les communes de France, et là-dessus, rien, le désert total. Alors, le désert total, pourquoi pas? Ben, à qui profite-t-il, ce désert total? Il profite essentiellement, je dirais, aux vacanciers aisés qui croisent au large de ces côtes, qui s'émerveillent devant cette forêt vierge. C'est très bien. Alors, ce qu'il faudrait, je pense, et on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est simplement que ces terres qui ont été achetées en très grande partie par le Conservatoire du Littoral soient rétrocédées, non pas pour faire des constructions, pour faire des hôtels, pour bétonner. Je suis contre la bétonisation, évidemment, du littoral, ça va de soi. Hein. Depuis mon adolescence, j'ai toujours milité contre ça. Mais en même temps, redonner aux agriculteurs qui veulent s'installer, qui aujourd'hui sont à la recherche de terres. Donc on dit,
certaines ont quand même une vocation agricole. Vous avez une grosse vocation agricole.
Au-delà du lycée agricole, il y a une histoire agricole de certaines. C'est évident. Hein. Alors, on le voit, vous l'avez dit aussi dans la présentation, à travers les vins qui sont renommés. Moi-même, j'ai un domaine avec ma fille qui marche très très bien. Tous les vins de certaines sont très bons. Voilà.
Alors, on parlait de ce gel hein, qui ne vous permet pas de construire. Vous avez quand même assez de logements sociaux sur votre commune, parce qu'il y a quand même un taux qui vous est imposé.
Oui, suffisamment. On a largement... Oui. Alors, lors de ma dernière mandature, on a construit quand même 49 logements sociaux en partenariat avec l'Office de l'Habitat, enfin, l'Office des HLM et Erilia. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en termes de logements sociaux. Ceci dit, comment redonner l'attractivité? C'était l'objet d'ailleurs de la consultation populaire.
Oui, il y a 300 logements vacants en centre-ville.
Exactement, il y a 300 logements vacants. Alors comment faire revenir des gens pour habiter en centre-ville? Vous savez que la tendance, ce n'est pas une tendance ni sartenaise ni corse, mais mondiale, fait que les gens veulent à la fois vivre en ville, mais à la campagne aussi. Donc d'où la multiplication depuis des décennies de lotissements qui n'ont pas d'âme, hein, qui ne correspondent pas, à mon avis, à ce que l'homme attend en termes de bien-être. Mais et pourtant, en Corse, on subit ça aussi. Les gens vont vers les centres commerciaux, vers les lotissements avec le petit jardin, etc., etc. Donc, et les centres-villes se vident. Que ce soit certaines, que ce soit Ajaccio, que ce soit toutes les autres villes de Corse.
C'était l'objet de votre piétonisation. Paul Kilikini, vous êtes un peu un ovni à l'heure où les communes ont du mal à joindre les deux bouts, puisque vous êtes une des rares communes à ne pas augmenter la fiscalité. Vous avez même réussi l'exploit, c'est-à-dire qu'à Sartène, on baisse les impôts. On parle bien sûr de taxes foncières. Alors, quelle est la recette pour arriver à ce résultat?
Ah bon, la recette, elle est simple. La recette, je dirais, elle est ancestrale. C'est une recette familiale que toutes les mères de famille connaissent, c'est-à-dire dépenser ce qu'il faut dépenser, mais pas plus. Donc, ne pas faire le pas plus long que la jambe, et faire en sorte que chaque euro, puisqu'on peut dire même chaque centime d'euro, doit être regardé avant d'être dépensé. Alors évidemment, il faut ce qu'il faut. Il faut venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, mais en même temps, il ne faut pas dépenser à tort et à travers. Et avec un souci d'économie permanent, malgré un budget très faible, on a réussi quand même à faire des économies importantes, comme le faisaient nos anciens. Et cette économie, alors il y avait plusieurs façons. Soit on la mettait, en épargne, soit on la rétrocédait sous forme de baisse des impôts fonciers à l'ensemble de la population, de façon à ce que leur pouvoir d'achat augmente aussi. C'est une façon, alors évidemment, à la marge, toute petite, de dire, bah, écoutez, nous aussi on participe un petit peu à la baisse de la pauvreté sur notre commune.
Paul Kilikine, une dernière question. Vous êtes à la tête de la mairie depuis 2008. Est-ce que vous allez vous représenter en 2026 ?
Non. Non, pas du tout. Alors, tout ça pour des raisons qui sont simples et qui, pour moi, me paraissent évidentes. C'est que, je ne vais pas dire le pouvoir use, c'est pas ça du tout. C'est que, à un certain moment, il faut savoir de redonner la place aux jeunes. C'est-à-dire, donner c'est la place aux jeunes. Moi, j'ai commencé à faire de la politique il y a très longtemps. Et on souffrait, justement, de ne pas pouvoir être au levier de commande. Et à chaque fois, il faut savoir passer la main. C'est la vie. Je veux dire, on est pas personne éternelle, je ne veux pas mourir maire de certaines. Je pourrais effectivement refaire encore une campagne, probablement être à nouveau réélu, sans prétention aucune, mais ce n'est pas mon but. Ma façon de voir la politique est complètement différente. La jeunesse doit reprendre les rênes du pouvoir.
Voilà, c'est une belle fin. En tout cas, je vous remercie.
Je ne serai pas candidat dans 2 ans.
Au Jomère, Paul Kilikine, prochain invité. Lundi 29, nous irons dans le centre Corse avec Xavier Paul et le maire de Corté. Il sera donc l'invité d'au Jomère et répondra aux questions des auditeurs dans le forum de RCFM. Avant cela, un tour du monde de la foi pour témoigner. Depuis un an maintenant, un Bastia, Étienne Mélogne, a parcouru le monde à la rencontre des différents peuples et croyances. Il rentre de Bosnie-Herzégovine et du Liban, un périple qu'il raconte dans Mare Ladino avec Jérôme Souzini.
Il s'appelle Étienne Mélogne, il fait le tour du monde de la foi. Bonjour.
Bonjour.
Ce tour du monde, Étienne Mélogne, il vous amène un peu de partout à la rencontre des populations, des pays, des croyances, des religions. Dernièrement, vous étiez au Liban avec notre consoeur et amie de Kantara, Nanette Diadé. Vous avez fait l'Égypte, l'Espagne, la Turquie. Le Liban, vous y étiez il n'y a pas très longtemps, donc quel souvenir ?
Alors, souvenir fantastique, c'est la croisée de tous les chemins, la croisée de l'Orient, la croisée en termes économiques, était en termes politiques. Donc, on était sous les bombes, tout simplement. Dès qu'on a quitté une région, l'armée israélienne avait bombardé une plaine. Mais au-delà de ça, des gens d'une foi extrême, d'une foi énorme. Et en plus, il n'y a aucun souci entre les musulmans, les chiites, les sunnites, les catholiques, les protestants, les évangélistes. Tout ça fonctionne dans une mosaïque de 18 religions. Et qui vit, ils vivent ça de façon extraordinairement bienveillante. Ce qui choque peut-être avec les bombes, avec les problèmes qu'il y a au niveau politique dans les hautes sphères.
Étienne Mélogne, vous faites ce tour du monde, vous faites un compte-rendu dans un ouvrage qui va paraître là maintenant.
Eh bien alors, je le tiens dans mes mains, puisque les colis sont arrivés aujourd'hui, le tour du monde de la spiritualité, de la foi, des croyances. Qu'avons-nous pas fait au bon Dieu pour en arriver là ? Il est surtout dans tous les bacs. La totalité de tous les bénéfices de ce livre iront à la radio Salvi Regina. Et j'annoncerai, au-delà de la première partie des 27 pays traversés, le tome 2 qui, lui, va être plutôt dans le témoignage, comme a dit le cardinal Bustillo samedi. Il dit, voilà, il faut que vous soyez un témoin, allez rencontrer les gens et dites ce que vous voyez.
Merci beaucoup, Étienne Mélogne, et puis bon tour du monde. Continuez à raconter des histoires de gens que vous rencontrez et de croyances que vous rencontrez des parlements. À bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà pour l'information à 12h27. Retour de l'actualité, RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez, sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux. Et dans quelques instants, à 12h30, comme tous les lundis, vous avez rendez-vous avec le Maxport, retour sur les bons, très bons résultats du week-end pour l'ACA et le SCB. Retour bien évidemment avec Jean-Philippe Thibaudeau et ses invités.